L'autre savoir-faire, une émission présentée par Marie-Catherine Bédouret. Bonjour auditeurs de Radio Présence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et vous faire découvrir une association, la LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux. Et pour cela, je voudrais d'abord vous parler des sept îles, du breton Sainte-Île, au nord de la Bretagne. Cet ensemble rocheux abrite de nombreuses espèces, 27 espèces d'oiseaux nicheurs, dont 15 espèces d'oiseaux marins, dont la seule colonie française de fous de bassin, le cormoran huppé, le fulmar boréal, le guillemot de treille et surtout le macaremoine. En 1910, des affiches placardées dans les gares des chemins de fer de l'Ouest invitent les chasseurs à participer à des sortes de safaris bretons sur l'île de Rouzic, une des sept îles de l'archipel. Et tous ces chasseurs ramenaient comme trophée les magnifiques becs de ces oiseaux, appelés aussi des calculots, nom régional des macaremoines, ces perroquets de mer se terrant comme des lapins. Horrifiée par ce massacre, la section ornithologique d'une société savante parisienne, dont l'agronome Albert Chapelier fait partie, prend le nom de LPO, donc Ligue de protection des oiseaux. Le premier président en est Louis Magot d'Aubusson. Il en devient le président le 26 janvier 1912. La LPO était née, avec comme emblème, bien entendu, le macareux moine. J'ai à mes côtés, dans le studio de Radio Présence, Madame Plaga Lebanski, directrice de la délégation lotoise de la LPO Occitanie, pour nous parler de cette association, loi 1901, de ses actions, ses réalisations, ses projets, ses ambitions. Bonjour Madame.
Bonjour Madame Bédouret.
La LPO existe à présent depuis 1912, un peu plus de 100 ans, plus d'un siècle. Et elle est devenue la première association française de protection de l'environnement, reconnue d'utilité publique et publiée au journal officiel en juillet 1986, donc relativement récent.
Oui, tout à fait.
Bien du chemin a été parcouru, malgré les catastrophes, comme la catastrophe du Torrey Canyon, de l'Erika, et le réchauffement climatique. Je voulais savoir si le combat de la LPO porté uniquement sur la protection des oiseaux, ou son combat est-il beaucoup plus large, la préservation de la nature, la préservation de la biodiversité? Pouvez-vous nous en dire davantage?
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que la LPO, initialement, travaillait énormément sur la préservation des oiseaux, comme vous l'avez très justement dit, hein, notre emblème c'est le macareux, tout a été construit initialement sur les oiseaux. Et puis on s'est rendu compte, il y a une vingtaine d'années, que préserver les oiseaux, c'était très bien, mais les préserver seuls, c'était dommage puisque ils sont nécessairement liés à tout un habitat et à à de nombreuses autres espèces. Et donc la LPO, depuis une vingtaine d'années, travaille non plus exclusivement sur l'oiseau, mais sur toute la biodiversité, la faune, la flore et les habitats. On peut donc nous retrouver à travailler sur des insectes, des reptiles, des chauves-souris, et tout ça fait bel et bien partie de nos nouvelles missions.
Alors comment agissez-vous justement par rapport à ces missions pour transmettre la connaissance des espèces, pour apprendre à les protéger, le développement de la connaissance naturaliste et la sensibilisation des citoyens, l'éducation, la formation à la protection de la nature?
Nous avons différentes missions au sein de la LPO Occitanie, et notamment de la délégation lotoise de la LPO Occitanie que je représente, qui sont des missions de médiation à la faune sauvage. Il y en a aussi des missions de connaissance de la biodiversité. Donc on mène des études pour mieux connaître l'état des populations et pouvoir agir à leur préservation. Des actions aussi de mobilisation citoyenne et de sensibilisation de tous les publics, donc de la crèche jusqu'aux plus âgés. On va aussi dans les EHPAD pour justement sensibiliser. Notre objectif, c'est vraiment que tout le monde prenne conscience de cette très belle et riche biodiversité qu'on a autour de nous, et pour que chacun puisse contribuer à sa protection.
Nous sommes dans le Lot, y a-t-il des animaux dans le Lot qui sont particulièrement en danger ?
Par exemple, pour la mission de médiation à la faune sauvage, la LPO, la délégation lotoise de la LPO Occitanie, coordonne depuis 2013 un réseau de collecte bénévole dont l'objectif est d'assurer le recueil et le transfert, dans les meilleurs délais, des animaux sauvages blessés vers des centres de soins. Le réseau est constitué donc de bénévoles dits rapatrieurs qui acheminent les animaux de l'endroit de la découverte ou de chez le découvreur vers les structures adaptées, c'est-à-dire les centres de soins, et de vétérinaires qui nous permettent, de fait de leurs compétences et de leurs connaissances, d'avoir des bons diagnostics dès le début. On est surtout appelé pour des oiseaux et des petits mammifères. Donc en 2022, par exemple, on avait apporté notre aide pour de nombreux écureuils, pour des hérissons et des oiseaux en tout genre, et notamment des rapaces. On a eu plus de 150 appels qui étaient exclusivement pour du rapace, notamment de la buse qui était souvent retrouvée sur les bords de route suite à des collisions routières. Donc les membres du réseau, donc ces fameux bénévoles, il y a des formations qui leur sont proposées deux fois par an pour avoir toutes les informations sur justement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels conseils ils peuvent donner aux personnes qui viennent de découvrir l'animal. Et comment est-ce qu'on attrape un animal ? Parce que bon, quand c'est un petit moineau, on voit à peu près tous comment l'attraper. Quand on se retrouve sur un rapace de la taille d'une buse, on voit parfois on a des vautours qui viennent et qui sont pas un peu perdus chez nous. C'est quand même une envergure autre. Pareil, quand c'est un héron, enfin, il y a des choses où il faut vraiment faire très attention. Sinon, on se met nous-mêmes en danger. Et donc, du coup, comme ça, eux, ils ont tous les éléments.
Mais où sont ces centres ?
Donc, ces centres de soins sont situés. Donc, il y en a un à Millau. Il y en a un à l'école vétérinaire de Toulouse, qui a une section spécialisée pour les animaux sauvages. Il y a un centre de soins qui est à Tonneins, à côté d'Agen. Et il y en a un à Verneuil-sur-Vienne, qui est à côté de Limoges. Donc tous sont quand même à beaucoup d'heures de route et nécessitent du coup une organisation assez importante pour pouvoir acheminer les animaux rapidement. Par chance, on croise les doigts. Il y a un centre de soins qui devrait ouvrir courant 2024, à Montcuq, donc qui est appelé la Belette.
Mais alors, dans la mesure où nous n'avons pas de formation, si nous trouvons un petit oiseau, un hibou sur le bord du chemin, que faut-il faire ? Quelles précautions prendre ? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais voilà, est-ce qu'on peut développer un petit peu ? Comment faire ?
Alors, pour reprendre du coup l'exemple des jeunes chouettes, c'est vrai que c'est un excellent exemple puisque tous les ans, à peu près au mois de février, on a énormément d'appels de personnes qui ont trouvé des jeunes chouettes et qui les ont ramenées, récupérées et qui nous les amènent pour savoir quoi en faire parce que elles étaient toutes seules et les parents n'étaient pas à côté, donc nécessairement il y avait un problème. Donc ils ont pensé tout à fait bien faire pour l'animal, sauf qu'en fait c'était pas du tout la démarche à suivre.
Alors, quelle démarche ?
Pour rester du coup sur cet exemple, il faut savoir que les chouettes, les rapaces, sont ce qu'on appelle des nidifuges. Ils vont rapidement quitter le nid. Ils ne vont pas rester, comme par exemple les mésanges, pendant longtemps dans leur nid à attendre que les parents les mettent un peu dehors. Comme les jeunes chouettes grossissent assez régulièrement, au bout d'un moment, elles sont plusieurs, elles sont trois dans le nid, il n'y a plus de place, donc tout le monde se pousse un peu, il y en a qui tombent, et puis de toute façon, ces espèces sont amenées à être des prédateurs, les rapaces, et du coup, à explorer l'environnement dans lequel ils se situent. Donc, dès le plus jeune âge, ils vont aller se promener et voir ce qu'il en est. De fait, trouver une jeune chouette au sol, c'est tout à fait naturel, elle n'est pas en danger. Alors, je sais bien que c'est tout à fait mignon, on dirait clairement une peluche, je vous l'accorde, mais en pleine journée, elle est posée à un endroit à l'abri normalement d'à peu près des regards à l'ombre, mais dès qu'elle aura faim le soir, elle va crier, les parents savent où sont les petits et pourront les nourrir. Donc vraiment, il faut les laisser sur place, si jamais l'oiseau, vous le voyez, il est en bord de route, voire sur la route, ça arrive, ils n'ont pas forcément conscience du danger. Là, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez le prendre pour le déplacer. Alors, on le prend avec une serviette ou un t-shirt, parce que vous avez un tissu sous la main, et vous pouvez le déplacer jusqu'à 40 mètres max de l'endroit où vous vous situez, idéalement en hauteur, et le petit, pareil, quand il aura faim...
Pour le mettre à l'abri.
Pour le mettre à l'abri, tout à fait. Et quand il aura faim le soir même, il fera suffisamment de bruit pour que les parents le retrouvent et puissent continuer de s'en occuper.
Donc, ne pas toucher l'animal. Et d'autre part, peut-être qu'il y a l'odeur de l'homme qui peut imprégner.
Alors, l'odeur de l'homme, c'est vrai pour les mammifères, pas pour les oiseaux. Les oiseaux, ils ont un odorat qui est assez mauvais, finalement. Et donc, du coup, si on touche un oiseau pour le remettre au nid ou pour le déplacer, un oisillon, j'entends, qui était en parfaite santé, bah, les parents ne vont pas l'abandonner. Donc ça, c'est vraiment pas un souci pour les oiseaux. En revanche, l'odeur, la transmission d'odeur, c'est vrai pour les mammifères. Quelqu'un qui va toucher, par exemple, un faon, parce qu'il sera tout seul au milieu du champ, la mère va vraiment rejeter complètement le petit, parce qu'elle considérera qu'il n'a pas la bonne odeur, ce n'est plus son petit, donc elle ne s'en occupera plus jamais. Elle le considère déjà mort. Il est toujours vivant, mais il n'a pas la bonne odeur. Donc là, vraiment, les petits mammifères, ne surtout pas les toucher.
Pouvez-vous nous parler de la médiation de la faune sauvage ?
Oui, tout à fait. Donc, au-delà du coup de ce réseau de collecte bénévole qu'on vient de présenter, on réalise aussi énormément de médiations à la faune sauvage, dont l'objectif est vraiment de trouver des moyens de cohabitation entre l'humain et les animaux sauvages, et de sensibiliser en fait à la présence de ces espèces qui bien souvent cherchent juste un endroit pour dormir ou un endroit pour manger dans le jardin et sont, une fois qu'on les connaît, pas du tout dérangeantes pour nous. Les études menées sur l'hirondelle de fenêtre montrent qu'il y a une forte diminution des populations. Malheureusement, depuis 20 ans, on constate moins 43% des populations, ce qui est assez énorme. Donc on en voit vraiment de moins en moins. Il y a différents facteurs par rapport à ça. La bétonisation, l'urbanisation des villes et villages, la sécheresse qui fait qu'elles ont quasiment plus de boue pour pouvoir faire leur nid. Leur nid étant fait de boue et de salive. Et puis surtout, bah, les nids sont souvent détruits par les habitants parce qu'ils sont sur les façades des maisons et qu'il bah, y a des salissures qui sont liées aux fientes. Donc là, dans les actions de cohabitation, par exemple, on va conseiller à ces personnes de mettre ce qu'on appelle des planches anti-fientes. Donc c'est des petites planches qu'on va poser en dessous du nid qui vont du coup servir de réceptacle à ces fientes et ça va éviter de salir le mur ou de tomber directement sur les personnes quand elles sont en dessous. Donc c'est des actions toutes simples mais que tout le monde peut faire. Alors pour la sensibilisation du public, on réalise énormément d'actions qui s'adressent au jeune public, donc des crèches jusqu'aux personnes âgées, donc avec des actions intergénérationnelles et pas d'enfants souvent. Pour exemple, en 2020, on a réalisé 152 animations et sensibilisé plus de 3000 personnes à la richesse de la biodiversité au moyen d'ateliers thématiques, de sorties nature, de conférences, de chantiers, d'expositions, enfin tout ce qui peut être mis en œuvre pour sensibiliser au plus possible.
Et je suis un petit peu curieuse, y a-t-il des revues qui sont publiées comme l'Oiseau Magazine ? Est-ce qu'il est toujours publié ce magazine-là ?
Oui, tout à fait. L'Oiseau Magazine est publié, donc il est géré par la LPO France. Mmh. Et on a aussi donc deux autres revues, l'Oiseau Mag Junior, donc à destination des plus jeunes, et l'Ornithos, qui est une revue d'études scientifiques pour le coup les experts ornithos.
Y a-t-il des sorties organisées pour les enfants, le public en général ?
Alors les prochaines sorties qui sont organisées, donc elles sont pour la fin du mois. Les 22 septembre et 27 septembre, on vous invite à découvrir le Dicknem criard, qui est un oiseau tout à fait fabuleux qu'on entend surtout le soir. Donc c'est une sortie crépusculaire. Donc celle du 22 septembre aura lieu à Castelnau-Montratier, celle du 27 septembre à l'Albinque. Et le 30 septembre, on vous invite à découvrir le Brame du cerf à La Motte-Timbergue, donc en soirée aussi.
Et maintenant, une chose importante, comment vous joindre ? Où sont vos bureaux, votre numéro de téléphone et votre mail si vous en avez un ?
Alors nos bureaux, ils sont situés à la Maison des Associations, en haut du boulevard Gambetta, donc au premier étage. On a une permanence qui est proposée tous les mercredis matins de 10h à 12h30, donc avec des salariés et des bénévoles qui sont là pour vous accueillir. Pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au 05 65 22 28 12, 05 65 22 28 12. Et pour l'adresse mail, lot, comme le département, @lpo.fr. lot@lpo.fr.
Merci. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui a été, je pense, très riche pour chacun d'enseignements. Pour terminer cette entrevue, je reprendrai une phrase d'Alain Bougrain-Dubourg, président actuel de l'association, qui dit « Le ciel inspire la liberté, l'oiseau l'incarne ». Merci à tous.
Merci à vous.
L'autre savoir-faire, une émission présentée par Marie-Catherine Bédouret.